Amen. Est-ce qu'on n'est pas dans la joie de l'adorer ce matin? Amen. C'est vraiment un privilège. Et on veut vraiment lui dire, prends toute la place. Continue ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Je propose qu'on puisse partager la parole. C'est toujours un acte d'adoration, vous savez, hein, quand on adore Dieu en esprit, en vérité, au travers de la musique, mais aussi au travers de sa parole qui est la vérité. Amen. Je voudrais juste partager la suite de ce que j'avais déjà partagé, c'était il y a quelques temps. Et c'est quelque chose que je ressens dans mon cœur pour nous ce matin, le Seigneur qui nous parle. On sent qu'il y a comme la température qui commence à s'élever, une ferveur qui commence à grandir, un engagement qui commence à grandir. Vous le sentez ? La soif, je sens la soif ici, pour qu'on continue l'adoration et qu'on continue à le louer et à l'adorer et à le rencontrer. Je sens cette ferveur, cette température qui commence à monter pour se lever, pour le servir. Et ça, c'est vraiment glorieux. Amen. Et donc, c'est la suite. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Alors voilà, donc vous avez le thème. Tant pis pour la surprise, mais ce n'est pas grave, vous l'avez ici. Donc j'avais commencé ce thème, c'était au mois d'août, vous vous souvenez ? Bien sûr, hein ? En fait, c'était au mois d'août 2013. Vous vous souvenez pas ? D'accord. Mais c'est normal, hein, je vous pardonne. 2013, c'était ma première prédication en tant que pasteur de l'Église. Et j'avais prêché sur, et j'avais partagé sur ce thème du zèle, de la ferveur, de cette température qui monte. Et je sens que le Seigneur nous dit en tant qu'Église, continuons à ouvrir notre cœur, continuons à lui faire de la place, continuons à vraiment aspirer aux dons les meilleurs, aspirer à le servir, aspirer à nous mettre à disposition pour aussi vraiment grandir dans le service. Et c'est le thème que je voudrais vous partager. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a été, c'était où, à Malais, quand il y a eu la finale du hockey, Lausanne contre Zurich, mauvais souvenir. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais ce que je veux noter, c'est la ferveur qu'il y avait. Moi, j'ai reçu une photo où des gens qui étaient pas à Zurich, mais qui étaient à Lausanne. Mais une ferveur, il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion, je vous l'ai dit, hein, récemment aussi, j'ai vu des photos. Vous me permettez de parler de Toulouse ? Je sais que c'est pas Lausanne, mais quand il y a eu la finale de la Coupe d'Europe de rugby, super finale. Et je reçois des photos de la place du Capitole avec tous ceux qui étaient là, qui suivaient le match. Quelle ferveur, hein. Et des fois, moi, je rêve. Une fois, vous le savez, on a été à Old Trafford, à Manchester United. On avait été invités. Quand j'ai vu la ferveur de ce stade, je me suis dit, waouh, si on pouvait prêcher l'évangile en plein milieu, et si on pouvait avoir la même ferveur. Et je crois vraiment, profondément, que c'est la ferveur qu'on peut connaître et que l'on va connaître avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Et je voudrais vraiment nous encourager ce matin à continuer, à avancer, à marcher. C'est vraiment encourageant. Et je voudrais voir avec vous dans la parole quelques pensées. Et j'ai quelque chose qui résonne dans mon cœur. C'est comme si le Seigneur était là à la porte et il frappe à la porte de nos cœurs. Et il nous dit, d'ores et déjà, encore une fois, je vous donne la fin. Je vous donne l'appel. Je sens le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur et qui nous invite à ouvrir, continuer à ouvrir notre cœur à sa présence, à sa parole. Et j'avais cette pensée pendant le temps aussi de louange. C'est comme si dans mon cœur, je ressentais d'abord un encouragement de sa part de nous dire en tant qu'Église, continuons, parce qu'il y a quelque chose de bon qui est là. Et puis, c'est comme si je ressentais également que Dieu nous donne le choix, nous laisse le choix. Et je sentais d'un seul coup, dans ce temps où on était en train d'adorer Dieu, comme si le Seigneur créateur de l'univers, de toute façon, son plan va s'accomplir. De toute façon, son plan va se faire. De toute façon, il est au-dessus de tous les noms. De toute façon, Christ va revenir. Et de toute façon, son règne va s'établir. Et il va s'établir d'une manière éternelle. Et il va s'établir d'une manière, j'oserais dire, radicale. Et c'est comme si quelque part, je me dis, mais oui, moi je suis une créature, je suis enfant de Dieu. Mais au final, que je te réponde ou que je ne te réponde pas, de toute façon, toi tu vas avancer. De toute façon, de toute façon. Et j'ai juste envie de nous dire, c'est super de pouvoir lui dire, je suis avec toi, Éternel. Je suis avec toi, Seigneur. Amen. Alors, il y a plusieurs versets, et je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu pour parler de ce thème. Et le premier, l'importance du zèle dans la parole, on le retrouve dans ce verset de Tite, chapitre 2, et au verset 11 à 15, où il est dit que c'est Paul qui parle, et il dira « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et les femmes, a été révélée. Elle nous enseigne à nous détourner de tout mépris de Dieu et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Verset 14. Il est dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Parole vivante dira, en vue de créer un peuple purifié du mal qui lui appartienne tout entier et qui se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Et je voudrais d'ores et déjà dire que c'est dans le cœur de Dieu, non seulement de nous purifier, non seulement de faire de nous son peuple, mais également c'est dans son plan et dans sa volonté que nous puissions être zélés, que nous puissions avoir de la ferveur, que nous puissions être enthousiastes. Et à ce stade-là, je voudrais juste préciser ce que ça veut dire, être enthousiaste, avoir de la ferveur. Dans le grec, c'est « zélos » de « zéo », qui signifie « être bouillant », « être bouillant ». Et il ne s'agit pas, ne traduisons pas, d'être dans l'effervescence, d'être excité. Des fois, on est dans des événements où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, on danse, on saute, on lève les mains, mais un jour après, deux jours après, il n'y a plus rien. Donc, traduisons cela. Quand on parle de ferveur, d'enthousiasme, c'est en nous cette motivation par le Saint-Esprit. Nous avons dit oui au Saint-Esprit pour que quelque chose bouillonne à l'intérieur par le Saint-Esprit et qui nous permet d'être fervent, zélé, enthousiaste, même au sein de l'épreuve, même au sein de la difficulté. Et on va le voir au travers des textes. Donc, il ne s'agit pas de sauter partout. Bon, on peut, hein, ça, c'est possible aussi, mais ce n'est pas de ça dont on parle ce matin. Et on le voit d'ailleurs, concernant le zèle, on l'a vu dans Tite 2. Alors, je vous ai mis exprès, au début, je ne voulais pas faire de PowerPoint, c'est juste que comme ça, vous avez les versets si vous voulez les relire, le PDF sera à votre disposition si vous le souhaitez. On a le diagnostic d'une église, celle de Laodicée. Dans Apocalypse 3, 14, 22, le diagnostic de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons fervents, qu'on ait de la ferveur, zélé. C'est ça son plan. Il s'est donné à la croix, il a souffert. Il a payé le prix pour que nous puissions l'être. Et quand il fait ce diagnostic à l'égard de l'église de Laodicée, vous, pour la plupart, connaissez ce texte, et il dira, « Je connais tes œuvres. » Alors, il y a une période dans ma vie où je voyais régulièrement, je ressentais régulièrement, et je voyais cela par l'esprit, comme le Seigneur qui est là et qui regarde, qui observe, qui a un diagnostic extraordinaire, non seulement sur ma vie, mais sur l'Église. Et il y a une période où je voyais ça régulièrement. C'est comme si le Seigneur, alors on le sait, hein, on sait que le Seigneur est là par son esprit, mais c'est comme s'il avait un regard acéré qu'il regardait, son Église, sa bien-aimée. Et là, quand il parle de ça, c'est pas quelque chose, c'est pas le patron qui arrive en disant « tu as fait faux ». C'est véritablement le Dieu d'amour qui a un plan parfait et qui vient et qui regarde. Et il dira à cette église de Laodicée, je connais tes œuvres. Avant même qu'on parle, on peut tout lui expliquer, mais il connaît déjà tout. Et il dira, mais je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Le zèle, ferveur, zéo, être bouillant à l'intérieur. Et il y a ces textes qui disent, je vais juste vomir de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans ce texte, Anita Pierce nous avait donné une clé de compréhension concernant être froid ou bouillant. Être bouillant, c'est la condition normale du chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et encore une fois, quand je dis ça, ce n'est pas de sauter partout. On est d'accord ? On peut être bouillant au sein de l'épreuve dans la persévérance. Et en étant très calme. Mais on peut être bouillant à l'intérieur, qui va nous faire persévérer. Froid, on comprend, c'est juste qu'on n'a pas l'esprit, on n'est pas né de nouveau, donc on a besoin de se convertir. Dieu est ouvert à cela. Mais l'entre-deux, la clé de compréhension qu'elle nous avait donnée, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous savez, quand on prend une douche, vous savez, qui aime les douches froides ? Il y en a, je sais. Alors moi, personnellement, si la douche est très froide, je ne vais pas y rester très longtemps. Mais si la douche, vous savez, des fois, il y a des dysfonctionnements dans les douches et des fois, on n'arrive pas à régler. Et c'est très, très, très chaud. Et là, c'est pareil. C'est vraiment, vite, il faut vite partir. Mais quand la douche est tiède, vous savez, quand on fait des colos avec des ados, quand c'est confortable, il reste 2 heures, et nous avec d'ailleurs, c'est juste un confort. Et ce que Dieu est en train de dire à cette église de Laodicée, c'est tu t'es installé dans un confort. Et quelque part, ce confort t'a amené à ne plus voir que tu avais besoin d'être renouvelé puissamment par Dieu lui-même. Que tu avais besoin de rentrer dans ses œuvres préparées d'avance. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec notre Dieu, c'est que quand il dit cela à l'église de Laodicée, il n'est pas en train de dire « c'est bon, c'est fini, je passe à une autre église maintenant, tu es disqualifié ». Il est en train de dire « mais voilà, je frappe à la porte, il y a une possibilité, je viens vers toi pour te redonner ce zèle par mon Saint-Esprit afin que tu puisses saisir et voir d'une manière nouvelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance ». Bon. Donc ça, c'est encourageant. Alors ça, c'est les églises. Et puis, on sait dans les textes, ça, c'est les 3 textes de base qui nous parlent, enfin, il y en a d'autres, mais de l'importance du zèle dans la parole de Dieu. Là, ça concerne une personne, c'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, ce jeune ministère, et Paul lui dira, « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Et quand Dieu nous regarde, quand Dieu regarde les uns et les autres, eh bien, il y a des moments, moi je sais que dans ma vie chrétienne, il y a eu des moments où j'avais vraiment, où ça se voyait, j'étais vraiment motivé, on avait eu des interjeunes, il y avait eu des conversions, baptême du Saint-Esprit, on était en feu, c'était super, ça allait bien. Et puis, il y a eu des périodes dans ma vie chrétienne où après un certain nombre, et un nombre certain d'années avec Dieu, où il y a eu des moments où vraiment ça a été le désert, où vraiment ça a été, j'ai lutté jour après jour, semaine après semaine, contre le découragement, en disant, mais ok, bon, c'est fini, quoi. Et il y a comme des fois des situations qui nous amènent intérieurement, ça peut être des situations de crise, des deuils, ça peut être des situations difficiles, des saisons d'hiver, des maladies, et on arrive en disant, mais j'ai plus la même motivation. Et on va voir tout à l'heure comment faire pour retrouver cette motivation, pour ne pas permettre à l'ennemi de nous clouer au sol et de nous permettre de continuer. Il y a eu des moments comme ça. Et Paul va dire à Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné. Et il est en train de lui dire, tu as reçu, mais tu ne l'exerces pas pour un certain nombre de raisons. Fallait oser être avec Paul. Certainement, il y avait des risques. Et Timothée, qui était un peu timide, par crainte, n'a pas exercé le don qu'il avait reçu. Et Paul, qui discerne cela, il regarde sur la vie de Timothée et lui dit, mais ne te sous-estime pas. Mets tes dons que Dieu t'a donnés au service des autres. Et honnêtement, frères et sœurs, on se connaît depuis un petit moment et je sens par l'esprit que ça parle à plusieurs. Mais c'est le bon moment. La bonne nouvelle, c'est que c'est le bon moment. Parce que quand on se lève et qu'on exerce les dons que Dieu nous a donnés, alors il y a comme l'approbation de Dieu, il y a le renouvellement de Dieu qui est là. Ne perdons pas espoir. Amen. Pourquoi Dieu nous demande cela? Ben, s'il nous le demande, c'est parce que lui-même est un Dieu qui est rempli de ferveur et de zèle. On voit dans la parole de Dieu, il y a certains passages que je ne vais pas développer, parce que je voudrais développer le dernier chapitre. Le zèle de Dieu est la réflexion, est l'expression de son amour intense pour nous. On voit par exemple dans Luc 22, 15, où Jésus dira, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous. J'ai vivement désiré. Il y a comme quelque chose qui brûle dans le cœur de Dieu et qui est passionné pour être dans cette relation avec nous. On a également dans, évidemment, Jean 3, 16, où il est dit, mais Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, mais il l'a tellement aimé, qu'à un moment donné, il est venu sur la terre. Et puis, il y a dans Ésaïe 9, 5 à 6, Ésaïe va prophétiser sur la nouvelle alliance. Il dira, mais un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. Il annonce la nouvelle alliance. Il dira à l'avance que c'est le prince de la paix, qu'il est le Dieu puissant, merveilleux conseiller. Et il va prophétiser sur le fils de David, qui est le Messie. Et à un moment donné, au verset 6, il dira, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà la source de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui en tant que nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance. Et puis le zèle dans le sens d'un engagement exclusif qui accueille toutes les nations. On se souviendra de Jean. Vous vous souvenez de Jean ? Dans Jean, plutôt, chapitre 2, versets 13 à 19, c'est Jésus qui vient dans le temple. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un fouet et il va mettre dehors tous les commerces. Tous les commerçants, vous vous souvenez de ça ? Dans le parvis des gentils. Pourquoi ? Il est le zèle de la maison de Dieu dévorait le cœur de Jésus. C'est en le psaume 69 qui dira ça, le zèle de ta maison me dévore. Et le zèle de ta maison me dévore, ça se traduit comment ? En mettant dehors tout ce qui empêche non seulement les Juifs, mais les nations à s'approcher de l'Éternel. C'était un lieu de prière, un lieu de rencontre, un lieu de miracle. Et tous ces commerçants avaient pris la place de cela. Et voilà que Jésus, dans son zèle, et d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance, le zèle de l'Éternel est associé à sa sainteté. Il est tellement passionné, il a tellement ce désir que nous puissions être dans cette relation avec lui et que nous puissions le servir dans son royaume, qu'il y a des moments où il est obligé de nous dire la vérité. Il est obligé de nous dire tout ce qui prend la place, tout ce qui encombre nos vies, tout ce qui nous empêche dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos activités, dans nos choix de vie, tout ce qui nous empêche d'avoir cette relation vraie avec Dieu et cet investissement avec lui, à un moment donné, lui prend le fouet et il envoie tout et il débarrasse ce lieu de rencontre. La sainteté de l'Éternel, le zèle qui est lié à la sainteté de l'Éternel. Et des fois, le Seigneur nous demande des fois des choses toutes simples. Hein. Des fois, simplement, le Seigneur nous dit tout simplement de dire, mais faisons de la place. Les activités sont bien, on peut vivre et on peut avoir des loisirs, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui prend sa place encombre nos vies. Et des fois, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif de plus. Et le Seigneur, des fois, nous dit, mais moi aussi, j'ai soif de plus te voir, te lever. J'ai aussi soif de te voir me faire plus de place. J'ai aussi soif de te voir dans des temps d'intercession personnelle ou en église. J'ai aussi soif de ça. J'ai aussi soif que tu oses témoigner de ta foi. J'ai aussi soif que tu oses prendre position quand tu vois le compromis ou des fois le péché dans mon église. J'ai soif aussi de ça. Le zèle de ta maison me dévore. Et quand on est dans sa présence, à un moment donné, l'Esprit de Dieu en nous, et on va le voir, va nous inviter à dire est-ce que tu es d'accord pour que tu vives ce renouveau. Vous avez remarqué à chaque fois qu'il y a eu des réveils, des renouveaux dans l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Un renouvellement dans l'adoration, mais aussi un renouvellement dans les comportements. Dans le témoignage, le réveil au Pays de Galles, il y a eu un tel impact dans la vie de l'Église qu'il y a eu un impact dans le témoignage. Les prisons se vidaient et les gens se convertissaient. C'est intéressant. Alors, quand on parle de zèle, quelles sont les sources du zèle, de la ferveur? Je vais aller vite sur ce point-là. Mais dans la parole, on voit Paul qui, dans Acte 22, nous parle du zèle qu'il avait avant de connaître Jésus comme son sauveur. Et le zèle religieux qu'il avait sans la connaissance de Christ véritablement l'a amené à tuer des chrétiens. Il l'a amené à emprisonner des chrétiens. Le zèle charnel, le zèle naturel, le zèle qui ne vient pas de Dieu peut faire des dégâts. On a également ce zèle qui repose sur l'ignorance de la nouvelle alliance. Il le dira d'ailleurs dans Acte 22. Il dira, mais il était zélé plus que les autres et il mettait les chrétiens en prison. Jusqu'au moment où il a eu la révélation de qui était Christ. Et on voit dans Galates 11, 1, verset 11, je vous lis dans une des versions anglaises. Il est dit, je veux que vous compreniez que le message de l'évangile que je prêche n'est pas fondé sur un simple raisonnement humain. Autrement dit, la source n'est pas humaine. Je n'ai reçu mon message d'aucune source humaine et personne ne me l'a enseigné. Je l'ai reçu par révélation directe de Jésus-Christ. Vous savez comment j'étais lorsque je suivais la religion juive. J'ai violemment persécuté l'Église de Dieu. J'ai fait de mon mieux pour la détruire. Verset 14 de Galates 1. Je devançais de loin mes compatriotes juifs par mon zèle pour les traditions de mes ancêtres. Avant même que je sois né, Dieu m'a choisi et m'a appelé par son admirable grâce. Il lui a plu de me révéler son Fils afin que j'annonce aux nations la bonne nouvelle de Jésus. On peut être zélé, on peut être très motivé, on peut s'engager pour des traditions, la tradition peut être religieuse, les traditions intellectuelles, philosophiques, parce que ces valeurs-là, pour nous, ont été inculquées. Et je me souviens une fois, on avait témoigné à quelqu'un qui a vraiment été touché par l'Évangile, mais qui m'a dit, je ne ferai pas le dernier pas, je ne vais pas, il voulait plus se convertir, parce qu'il m'a dit, sinon mon grand-père va se retourner dans sa tombe si je change de religion. Et ça a été une pierre d'achoppement. Donc là, on n'est pas en train de parler de religion, on est en train de parler de relation vivante avec Dieu. Alors, il y a plusieurs choses. Le zèle peut être intéressé, et ça, c'est aussi intéressant de le lire. Il est dit dans Galates 4, 17, « Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Il parle évidemment des judaïsants. Et je voudrais dire à ce stade-là que ceux et celles qui, dans l'Église, qu'ils soient ministères, quand je dis l'Église en général, qu'ils soient ministères ou non, si quelqu'un s'efforce à vous attirer à lui, de par les charismes, de par toutes sortes de choses, alors fuyez, fuyez. Parce que les véritables ministères, les véritables frères et sœurs qui sont animés d'un zèle qui vient de Dieu, va nous amener, va nous encourager à nous rapprocher davantage de Dieu et pas de s'approcher davantage d'un ministère ou d'une église. Pour nous, l'important, à ce stade, en tant qu'Église, c'est que nous prêchions l'Évangile, c'est que nous soyons des témoins pour que dans la région, un maximum d'hommes et de femmes, de jeunes, puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent changer de royaume et d'autorité. Parce que c'est ça, c'est pour cela qu'on travaille, c'est pour ça qu'on travaille avec d'autres églises, c'est pour ça qu'on n'est pas seul. Et notre motivation, c'est que les uns et les autres puissent se rapprocher à partir de la conversion et après se rapprocher de plus en plus, plus près de Dieu, plus proche de Dieu, et pas plus proche des uns et des autres. Vous savez, dans une église qui est très loin, et c'est il y a très longtemps, il y avait une sœur qui était extraordinaire d'ailleurs, parce qu'elle témoignait tout le temps, et elle amenait beaucoup de personnes à l'église. Et on avait des réunions d'évangélisation, et il y en a quand même pas mal qui se sont convertis. Mais la seule difficulté avec cette sœur, c'est que la première partie, elle faisait un travail extraordinaire. Mais dès qu'on s'approchait des personnes qu'elle avait amenées à l'église, là, elle sortait les griffes. Et je me suis dit, mais là, on a juste besoin d'être bien au clair, de se dire, mais tout ce que l'on fait pour Dieu, c'est vraiment pour Dieu d'abord, et c'est pour que les uns et les autres puissent vraiment s'épanouir avec Dieu. Et ce n'est pas pour nous, en fait. Allô ? Ça va ? Amen. Un zèle intéressé pour servir ses propres intérêts, Philippiens 2, quand Paul dit à l'église de Philippe, des Philippiens, il dira « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Et je crois que pour notre église, frères et sœurs, non seulement aujourd'hui, mais dans les semaines et dans les mois qui arrivent, je crois profondément et je le ressens vraiment très fortement, je crois que le Saint-Esprit est en train de renouveler ce zèle. Il est en train de renouveler cette ferveur. Il est en train d'amener un zèle nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné par le salut de ceux qui sont dans cette région. Et ce qui va être à gérer dans les temps qui arrivent, c'est de dire... Soyons dans l'unité. Ne soyons pas de ceux et celles qui, ayant un zèle, des projets, et comme des électrons libres, on fait partie d'une église, on fait partie d'une assemblée. Et je crois que Dieu est également un Dieu d'ordre. Et même si on a des super dons, et même si on a des super idées, on est ensemble. On est un corps. Et je crois que c'est important de prier les uns pour les autres et de dire, je ne cherche pas mon intérêt. Vous savez, des fois, c'est subtil hein, de chercher son propre intérêt. Quand je prie que je suis exaucé, quand j'ai la révélation que d'autres n'ont pas, quand je sais faire des choses que les autres ne savent pas, à un moment donné, c'est valorisant. Et la tentation de la chair, ça serait de dire, moi j'ai compris et les autres n'ont pas compris. Mais ça, ce n'est pas le zèle qui vient de Dieu, ce n'est pas la ferveur qui vient de Dieu. Si Dieu m'a donné des dons, c'est extraordinaire. Mais en même temps, Christ Jésus a été tellement humble qu'il est venu sur la terre et qu'il a quitté son ciel de gloire pour servir, pour donner sa vie. Et nous ne sommes pas plus que le Seigneur. Et je crois que nous sommes appelés à ça. Et je crois que c'est également une source de vraiment d'épanouissement. Il y a le zèle amer qui divise. Zélos, vous le trouvez dans la parole de Dieu, et c'est peut être également ce zèle qui est tellement, vous savez, ce feu qui amène la colère, qui amène toutes sortes de choses charnellement et qui peut diviser. Jacques en parle dans son chapitre 3. Quelle est la bonne source de la ferveur, de la motivation? En réalité, le zèle va reposer sur la connaissance, une vraie connaissance de la parole. On l'a ici, dans la parole de Dieu, dans Romains 10, versets 1 à 4, toujours Paul qui parle, au verset 2, il dit « Je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu ». Donc apparemment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Zèle pour Dieu. Mais Paul, qui a le discernement, dit « Mais pas conformément à la vraie connaissance ». La source du zèle, de la ferveur, du feu qui bouillonne, c'est quelque chose qui va se baser sur la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est quoi? C'est une connaissance qui nous vient de la révélation que Christ Jésus est ressuscité, qu'il nous accorde ce pardon, qu'il nous appelle à le suivre. Il y a comme dans Paul, Paul est un exemple par excellence parce que Paul connaît la Bible, il connaît la Torah, il fait beaucoup de choses, il va même aller au-delà de ce que les autres pouvaient faire. Mais quand il a la révélation que Christ est le Messie, son zèle va changer d'orientation. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Le zèle, c'est également suscité en réponse à son appel. À quoi sommes-nous appelés? Alors, génériquement, on est appelés à le servir, à témoigner, on est tous appelés à l'adorer, on est tous appelés à lire la parole, on est tous des sacrificateurs. Pas besoin de pasteur pour ça, on a tous cet accès direct auprès du Père. Amen. Ah, je sens que ça vous bénit. La réalité, c'est que on a des appels qui sont spécifiques. Ça peut être dans notre profession, ça peut être dans notre quartier, dans notre famille. Et on a ce texte de Jérémie au chapitre 20, et au verset 9, qui est absolument redoutable, on voit Jérémie il a souffert dans le service. En tant que prophète, il a véritablement souffert. Et Jérémie, de par les circonstances de son ministère, était quelqu'un qui a été le porte-parole de Dieu, mais qui a vraiment souffert dans la saison historique dans laquelle il était. Et il va dire à un moment donné, quelque chose qui nous bénit également, il dira, c'est le prophète, hein, il dira, je ne ferai plus mention de lui en parlant de Dieu. Je ne parlerai plus en son nom. J'en ai assez, je suis fatigué. Voilà, stop, j'arrête. Et juste après, il dira dans Jérémie 20, verset 9, alors, dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est retenu dans mes os, je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. L'Esprit de Dieu en nous, par lequel nous crions « Abba Père », nous amène également à nous lever pour le servir, à nous lever pour témoigner. Il nous appelle dans notre appel spécifique. Et si nous essayons de résister, si nous essayons de le faire taire, alors nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être enfants de Dieu, mais nous sommes appelés également à le servir, à le suivre, à être, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Jérémie, il a la palme d'or de la souffrance, après Jésus. Et cependant, ce feu bouillonnant qui venait dans son cœur, parce qu'il était appelé dans son mandat, à un moment donné, a dit, non, je ne peux pas le contenir, je ne peux pas résister. C'est Paul qui dira, mais malheur à moi si je n'évangélise. Non pas qu'il est sous le poids de la culpabilité, mais l'Esprit de Dieu va le pousser, il va le motiver, l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on peut, devant tant d'amour de la part de notre Dieu, devant tant d'amour de sa part, devant tant de fidélité, est-ce qu'on peut dire, non, bon, ok, je vais aller au club chrétien, je vais me faire plaisir, je vais vivre ma vie comme j'ai envie, tant pis pour Dieu et tant pis pour les autres. L'Esprit de Dieu en nous va nous rappeler que Dieu est Dieu et qu'il nous appelle à être pour sa gloire. Et tant qu'on résiste, alors on n'est pas heureux. Véritable bonheur, c'est d'être au cœur de la volonté de Dieu et de le servir même si c'est dans la souffrance. Voilà, zèle suscité par l'amour, l'amour de Christ nous presse. Vous lirez les textes, zèle comme l'expression aussi d'un amour conjugal. C'est Paul qui dira, cet amour-là, la source de notre motivation, c'est d'abord l'amour de Dieu en nous, nous presse, et c'est le cœur de notre motivation, dans notre relation et dans notre service. Mais ce n'est pas un amour que l'on peut partager, c'est un amour exclusif. Et si nous partageons cet amour avec d'autres passions, là encore, le Seigneur nous rappelle que lui, il est passionné exclusivement. Il n'a pas d'autre. C'est un amour qui est fort et qui est fidèle. Alors, je voudrais juste conclure. Alors, conséquence pour l'Église, on commence à voir les fruits dans notre Église. Le zèle me pousse à l'action. Vous lirez dans Romains 12, verset 11. On va le relire tout à l'heure. Le zèle va me pousser à être généreux. Il est communicatif dans 2 Corinthiens 9 avec la générosité des Macédoniens pour ceux qui sont à Jérusalem. Il y a le zèle qui me permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Hébreux 6, 9 à 12, ça c'est important. Certains vont se dire, bon ok, je laisse le zèle et la motivation pour les autres. Moi, ça va comme moi, ne me dérangez pas. Ça va très bien, je suis très heureux comme ça. Je lis mes 3 versets le matin. Juste ne m'en demandez pas plus. Quand on lit dans Hébreux 6, 9, on se rend compte que ce texte nous parle de la possibilité d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Il est dit dans Hébreux 6, 10 à 12, il est dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, pour les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Écoutez bien verset 11. « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Pourquoi est-il important pour nous de garder et d'alimenter ce zèle pour Dieu ? Pourquoi ? J'ai cette image de, vous savez, en Ukraine, malheureusement, il y a la guerre. Et si, en Ukraine, un chrétien, par exemple, habite à côté du Donbass, ou un habitant d'Ukraine, à côté du Donbass, il y a la guerre. Bien sûr qu'il y a la guerre dans toute l'Ukraine. Mais si, entre celui qui habite à côté du Donbass et celui qui habite près de la Pologne, la zone de combat n'est pas la même. Et celui qui habite près de la zone de combat est plus à même d'être tué que ceux qui habitent à l'ouest. Quelle est cette image avec ses limites ? En tant que chrétien, si je n'alimente pas et je ne garde pas cette ferveur, ce zèle pour Dieu, eh bien, il se trouve que je vais être toujours à la limite du compromis, limite de l'incrédulité, limite quand je vais être attaqué, si je suis déjà un peu dans le découragement, à ce moment-là, ça va être très facile pour l'ennemi de m'attirer à lui et de me décourager. Mais si j'alimente ce zèle, si j'alimente cette foi, si j'alimente à ce moment-là, c'est comme si je m'éloignais du front et je suis un peu plus, entre guillemets, personne n'est à l'abri, mais on est quand même un peu plus à l'abri. Et surtout, il y a une dimension qui est eschatologique dans le zèle. Le zèle pour Dieu, quand il se lève pour combattre l'ennemi contre son peuple. Mais en même temps, ça amène cette possibilité d'aller jusqu'au bout. Et quand nous alimentons ce zèle, alors on a plus de probabilité, avec la grâce de Dieu, d'aller jusqu'au bout. La question, c'est comment faire quand j'ai plus ce zèle ? Alors, je sais que ça ne vous concerne pas, mais donc je vais parler, comme c'est enregistré, peut-être d'autres vont écouter ça. Comment faire ? Juste si tu peux avancer, s'il te plaît, Julien. Comment faire si ma température spirituelle, tu peux avancer s'il te plaît. Alors, on voit dans Romains 12, je vous invite à prendre ce texte, Romains 12, verset 11, je vous lis dans la version NLT, une version anglaise, super. Conséquent. Non, remonte s'il te plaît. Merci. Superbe. Merci beaucoup. C'est de se souvenir, et je lis le texte, il est dit dans Romains 12, verset 11, « Ne manquez jamais de zèle. » Donc ça, c'est, on a compris que c'était important d'en avoir. « Mais gardez votre ferveur spirituelle au service du Seigneur. » Et quand il est dit de la ferveur spirituelle, il n'est pas en train de dire « Soyez convaincus dans votre intellect que c'est important d'être fervent. » Il est parlé ici de l'esprit, du pneuma. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a besoin de comprendre que nous pouvons être renouvelés dans ce feu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler la parole de Dieu, qui va nous rappeler les versets, qui va travailler dans nos cœurs en disant « mais je prends conscience ». Certains m'ont dit récemment, et je le vois depuis plusieurs mois, d'un seul coup, il y a comme l'Esprit de Dieu qui rappelle les dons et qui rappelle que c'est important de pouvoir ne pas enterrer les dons, mais de se lever. C'est le Saint-Esprit qui est en accord avec la parole et qui est en accord avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Père. Et voilà qu'il y a un alignement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vient dans notre esprit en nous disant « Lève-toi, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'être renouvelé. » Et la balle, après, est dans notre camp. En disant « Oui, je suis d'accord et ça me pousse à l'action. » Ou alors « Je ne le fais pas. » Et puis, il peut y avoir aussi, comme dans l'église de Laodicée, besoin de repentance. Une fois, j'étais véritablement découragé et j'avais même verbalisé que je ne voulais plus faire certaines choses dans l'œuvre de Dieu. Et effectivement, il y a des choses qui se sont éteintes dans ma vie avec Dieu et dans mon ministère. Et jusqu'au moment où j'ai entendu ce message d'une autre façon, et là, ça m'a défié, ça m'a dérangé. Je ne sais pas si vous êtes dérangé par ce message. Je ne sais pas si ça vous dérange. Mais si ça vous dérange, c'est peut-être que il y a un message de la part du Seigneur et un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Quand j'ai entendu ce message, ça m'a dérangé. Parce que je savais que j'avais besoin d'une action de Dieu dans mon cœur et qu'il fallait que je me réaligne. Et quand j'ai simplement dit, et c'est pas anormal de le faire, c'est juste parce qu'on est dans la vraie vie que des fois il y a des choses qui sont compliquées. Et à ce moment-là, prise de conscience, c'est comme si c'était le temps de Dieu, vraiment le temps de Dieu pour moi d'entendre, ranime le don, repens-toi pour cette tiédeur. Et quand j'ai entendu ça, le Seigneur ne m'a pas demandé une explication de texte en disant « Oui, mais je comprends, c'est parce que tu es passé par là, mais je sais, bon, c'est compliqué, je sais que c'est difficile. » Mais tout ça, il le sait déjà, et c'est vrai, c'est vrai. Mais le remède, ça a été « Aie donc du zèle et repens-toi. » Et honnêtement, au moment où je me suis repenti par rapport à ça, la trajectoire a changé. Comment à nouveau avoir ce zèle? Être intentionnel, être dans la foi. Paul dira à Timothée, ranime le don qui est en toi. Il ne lui dit pas, écoute, va suivre toute une formation de... Non, où je vais prier pour toi. Ranime le don. C'est intentionnel dans la foi, personnellement. Et puis, c'est important quand même d'identifier les crises et les épreuves dans lesquelles nous sommes. Quand on les identifie, on peut les traiter avec le Seigneur. Le deuil, des fois, il y a des périodes de notre vie. Des fois, on arrive à la retraite, on dit, bon, maintenant, place aux jeunes, c'est fini avec le Seigneur. J'ai juste ma relation, mais maintenant, place aux jeunes. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Et puis, il n'y a pas d'adolescence non plus. Les adolescents, c'est compliqué. La crise de la quarantaine, c'est compliqué. La crise de la cinquantaine, soixantaine. Seigneur sait tout ça. Mais les valeurs du royaume sont différentes de celles du royaume de Dieu. Et d'identifier ces crises, c'est de les remettre au Seigneur et de dire, malgré tout ça, je sais que toi, tu es capable d'agir dans mon esprit pour que je puisse me lever. Jérémie, il était dans un contexte extrêmement défavorable. Conscience, on l'a dit tout à l'heure, de l'appel spécifique de Dieu pour nous. C'est le moment d'écouter le feu que Dieu a mis dans notre entraille. même si on a mis de l'eau, même si on a mis beaucoup de choses pour essayer de l'éteindre, vous voyez la fumée qui est là ? On peut souffler dessus et le feu reprend. Ne pas résister à cet amour qui nous presse. Et enfin, une motivation communautaire. Vous avez vu quand, et je crois profondément que dans les mois qui arrivent, avec l'équipe qui est en place, et ce que le Seigneur va faire, il va y avoir des nouveaux projets et des projets qui vont motiver. Alors déjà, on est motivé par certains projets, on a été motivé par certains projets, comme Turning ou d'autres, mais je voudrais finir avec ça, dans Agé, verset chapitre 1, le prophète reçoit, alors que le peuple de Dieu est revenu dans le pays, ils ont construit leur maison, mais le temple est vraiment dans un état lamentable. Et Dieu leur rappelle, au travers du prophète Agé, il va recevoir par l'intermédiaire du prophète Agé les paroles de l'Éternel. Et ce prophète va dire au peuple, vous dites, peuple de Dieu et d'Israël, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. En gros, le temple avait besoin d'être édifié. Les maisons étaient bien et il y avait comme un confort. Tu es ni froid, ni bouillant, tu es tranquille. Et voilà que le prophète parle de la part de Dieu. Il dira, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ? Est-ce le moment pour nous d'être dans notre confort alors qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent dans cette région, spirituellement ? Alors, verset 14, la bonne nouvelle, et on va prier pour ça. L'Esprit de l'Éternel a réveillé le gouverneur de Juda, Zorobabel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Bon, c'est les responsables, mais la Bible me dit, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre, et dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, et on sait que le temple va être reconstruit. Et avec le temple, la préparation de la venue du Messie, où le salut va être annoncé à toutes les nations. Si le peuple de Dieu avait arrêté là, eh bien, ils auraient arrêté la préparation de la venue du Messie. Mais par leur obéissance, même si eux-mêmes ne l'ont pas vu, ils ont préparé le royaume de Dieu, la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, frères et sœurs ? Je sais qu'il y a beaucoup de versets, je vais les laisser, donc vous aurez l'occasion de les relire tranquillement. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est un véritable encouragement de la part du Seigneur. De dire, la température commence à monter. Le zèle, la ferveur, le bouillonnement de l'esprit est en train de monter dans nos entrailles pour qu'on puisse se mobiliser. Ça fait un an qu'on a intensifié les temps de prière, d'intercession, d'intensifier également l'évangélisation, d'intensifier la louange et l'adoration. Non pas d'une manière frénétique et au niveau des activités, mais que le zèle de la maison de l'Éternel puisse nous dévorer et puisse nous amener à persévérer, puisse nous amener à nous engager, puisse nous amener à adorer Dieu en esprit, en vérité. Et ce que je ressens, c'est que le Saint-Esprit vient, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur et il nous invite à l'ouvrir. Alors que les yeux sont fermés, est-ce que je peux peut-être demander à un musicien de venir juste pendant quelques instants, puis après je donnerai le relais à Patrick pour la Sainte Cène. Mais juste, je voudrais donner l'occasion de répondre parce que je crois qu'aujourd'hui Dieu parle et Dieu nous invite, non pas par rapport à nos sentiments, non pas par rapport à ce qu'on a envie. Mais la parole de Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à continuer à t'engager ? Est-ce que tu es prêt à être renouvelé dans ton être intérieur ? Est-ce que tu es prêt à entrer dans le mandat dans lequel je t'ai appelé ? Quel que soit ce que tu reçois, quels que soient peut-être les échecs du passé, mais aujourd'hui est aujourd'hui. On ne peut pas changer hier, mais aujourd'hui, on peut dire oui à Dieu. Et si nous ressentons cela, simplement en disant, Seigneur, me voici, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande pardon, peut-être parce que la température est redescendue, j'ai peut-être laisser aller certaines choses. Mais aujourd'hui, je ne veux pas venir en étant très fier et non pas content sur ma force, mais simplement parce que je suis enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Et merci parce que toi, tu as tout accompli, parce que tu es zélé, tu as cette ferveur pour nous. Et je vais nous inviter, alors que les yeux sont fermés, simplement pour ceux qui désirent répondre à cet appel, simplement de vous lever à votre place et de dire à Dieu, les yeux sont fermés, Dieu, de toute façon, Dieu sait. Et puis même si on... de toute façon, l'œuvre de Dieu va se faire. Mais c'est comme si vous ne le sentez pas, vous pouvez le faire ce soir chez vous, c'est comme vous voulez, mais je sens qu'aujourd'hui, en tout cas, faites-le aujourd'hui, parce que je sens que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à nous positionner et à lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens toucher mes entrailles. Mais je n'ai même pas besoin de te le demander parce que lorsque je m'aligne avec toi, tu l'inscris dans le ciel et c'est toi qui agis par ton esprit. Seigneur, merci Père. Tu vois, nos cœurs, nos vies, on t'ouvre la porte de nos cœurs. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu vas faire pour cette nouvelle saison. Et Seigneur, viens, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on aurait pu parler de toi. Pardon pour toutes les fois où on aurait pu venir intercéder. Pardon pour toutes les fois où tu nous as interpellés pour te prendre des nouvelles d'un frère ou d'une sœur. Où tu nous as mis dans notre cœur une parole. Ou peut-être tu nous avais demandé de faire quelque chose et qu'on ne l'a pas fait. Seigneur, pardon pour cela. Mais ce matin, nous sommes là debout devant toi. Et nous voulons te dire, va jusqu'au bout dans nos vies. Non seulement individuellement, comme Timothée, mais également en tant qu'Église. En tant qu'Église. Et en tant qu'Église, on veut se positionner pour te dire, prends la place du roi. Seigneur, viens, continue, Seigneur, ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Seigneur, non seulement pour ta gloire, mais aussi pour le salut dans cette région. Et alors que nous sommes là dans sa présence et que nous ouvrons son cœur, notre cœur, on sent nos limites également. Et peut-être certains n'y croient plus, comme Pierre, lorsqu'il est reparti à la pêche. Et il a touché du doigt ses propres limites. Il est déçu par lui-même, en disant, mais j'ai plus la force, en fait. J'y arrive pas. Mais Jésus est là, et il l'appelle à nouveau. Et je crois que c'est ce que Dieu dit à certains, en disant, mais tu as ce sentiment d'échec, tu as ce sentiment de... T'as plus envie. Mais alors que nous ouvrons notre cœur à Dieu et au Saint-Esprit, c'est comme si le Seigneur agissait pour nous donner l'envie à nouveau. Nous avons simplement besoin de lui dire, je suis d'accord avec toi, d'accord avec ton plan. Mon ADN, c'est d'être en feu pour toi, avoir de la ferveur et du zèle pour toi. C'est ça mon appel. Et tu as donné ta vie pour ça. Alors merci Père de bénir ton Église ce matin. Et de continuer, Seigneur, ton œuvre pendant ce temps de Sainte-Cène. Que ton nom soit glorifié.